Je vous ai préparé une petite mixture avec le cheveu de l'autre à l'intérieur. Vous allez boire cette mixture et vous allez switcher. Vous allez changer de corps. Vous allez vous réveiller demain dans le corps de l'autre. C'est une expérience exceptionnelle.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio B. Je suis Jules Aron, aujourd'hui je suis accompagné de ma collègue Camille.
Bonjour et merci d'écouter cette émission spéciale réalisée par notre classe de 4e. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Et plus particulièrement des préjugés.
Pour mieux comprendre ce sujet, écoutons un micro-trottoir réalisé dans les rues de Saint-Denis-les-Bourgs et dans notre collège Yvon Morandin.
Quels préjugés connaissez-vous sur les hommes et les femmes ?
Par exemple, que les femmes ne savent pas conduire.
Le préjugé qu'un homme ne peut pas faire le métier d'une femme ou qu'une femme ne peut pas faire le métier d'un homme.
Quel préjugé ! Les hommes sont les plus forts, c'est le maître de la maison, l'homme travaille, la femme doit rester. Enfin, c'est ce que je connais, c'est pas ce que je pratique. Hein.
Les femmes doivent rester à la maison et que les hommes doivent aller au travail.
Que les femmes conduisent moins bien que les hommes et que les hommes n'ont pas le droit de pleurer.
Avez-vous déjà été victime d'un de ces préjugés ? Si oui, qu'avez-vous ressenti ?
Oh oui, je pense que c'est des choses qu'on entend, que tout le monde peut entendre une fois dans sa vie. Ça dépend sur quoi c'est. Quand c'est sur les femmes au volant, c'est pas très grave. Quand c'est sur son travail ou ses qualités personnelles, on le prend moins bien.
Non, pas dans mes souvenirs.
Oui, quand j'étais plus jeune, j'ai une formation de scientifique et technique, donc je voulais faire un métier d'homme. On m'a dit que non, au final je forçais, on m'a dit que oui. Donc ce que j'ai ressenti, simplement qu'il fallait forcer un petit peu plus, mais que si on force, ça finit par s'ouvrir.
Oui, en tant que femme, forcément, ça m'est arrivé, pas récemment, mais quand j'ai fait mes études ou plus jeune, voilà, j'avais pas toujours l'impression d'avoir ma place et c'est vrai que c'est très humiliant de ressentir ce genre de choses.
Oui, dans le travail, surtout dans le monde du travail.
Si oui, qu'avez-vous ressenti ?
Beaucoup de colère.
Non, moi je n'ai jamais été victime de préjugés.
Comme vous venez de l'entendre, il y a plusieurs avis différents en fonction des personnes interrogées. Ma prochaine question est, depuis quand les préjugés existent-ils ? Cristiano et Mohamed vont vous expliquer.
Bonjour Mohamed.
Bonjour Cristiano, c'est quoi pour toi un préjugé ?
Pour moi, un préjugé, c'est une idée toute faite sur une personne ou un groupe de personnes en fonction de sa religion, son orientation sexuelle, sa culture, ses origines ou sa couleur de peau.
Peux-tu me citer des exemples de préjugés ?
Par exemple, on dit toujours « femme au volant, mort au tournant », alors que d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, en 2019, les hommes représentent 84% des responsables d'accidents mortels.
Ah d'accord, je ne pensais pas que c'était à ce point-là.
C'est comme les personnes de religion musulmane, qui sont souvent associées à des terroristes alors que cela ne correspond qu'à un tout petit groupe d'extrémistes religieux.
Oui, tu as raison. Et depuis quand les préjugés existent-ils ?
Les préjugés ont toujours existé. Ils sont liés à l'histoire et à la place des femmes dans la société qui était réduite.
Maintenant que tu le dis, effectivement, au Moyen-Âge, les femmes restaient à la maison pour faire le ménage et s'occuper des enfants. Pendant ce temps, les hommes allaient travailler.
Et cela même à la préhistoire. Les hommes chassaient, puis les femmes préparaient le repas.
Des exemples comme ça, l'histoire doit en contenir beaucoup.
Malheureusement, trop, mais la société d'aujourd'hui ne fait pas beaucoup mieux. Même si les femmes ont le droit de faire le métier qu'elles veulent, certains chefs d'entreprise ne voudront pas embaucher de femmes, car ils les considèrent comme inférieures et encore, ce n'est qu'une petite partie des préjugés à l'heure actuelle.
J'ai une dernière question. Le mot préjugé, il existe depuis combien de temps ?
D'après son étymologie publiée par le Centre national de ressources textuelles et lexicales, le mot serait apparu en 1570.
Merci de m'avoir aidé à en savoir plus sur les préjugés dans l'histoire.
De rien, et au revoir Mohamed.
Au revoir Cristiano.
Merci beaucoup Cristiano et à toi aussi Mohamed. Grâce à vous deux, nous savons donc comment tout a commencé. Pensez-vous que certains métiers soient réservés aux hommes ou aux femmes ? On retrouve Camille avec Mohamed. Vous avez posé cette question dans les rues de Saint-Denis-les-Bourgs et dans notre collège.
Pensez-vous que certains métiers sont réservés uniquement aux hommes ou aux femmes ? Pourquoi ?
Alors non, je pense qu'on devrait avoir le choix de choisir le métier qu'on a envie de faire et qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes ou aux femmes.
Pas du tout.
Absolument pas.
Raison, je crois que maintenant, avec les progrès technologiques, Voilà, il n'y a pas de souci pour que l'ensemble puisse être fait par les hommes comme les femmes.
Alors moi, je ne pense pas que certains métiers sont réservés aux hommes et aux femmes. Je pense que tout le monde peut faire tous les métiers qu'ils espèrent faire, qu'ils rêvent. Mais la réalité montre que, par exemple, il y a moins de femmes dans les métiers scientifiques ou qu'il y a moins de femmes dans les métiers très, très manuels comme le BTP ou la mécanique, par exemple.
Certains, ouais.
Pourquoi ?
J'étais dans le monde du bâtiment et c'est dur. Physiquement, c'est dur. J'ai travaillé avec des filles en bâtiment et ça allait, mais je veux dire, elles avaient plus de mal à porter des paquets de... Je dis, moi, j'étais en carrelage, par exemple. Des paquets de carreaux ou de ciment. Moi, c'est ce que j'ai vu de mon côté. Quoi.
Et maintenant, avec Omar et Antoine, on revient sur ces préjugés autour des métiers.
Bonjour Antoine.
Bonjour Omar.
On va maintenant essayer d'approfondir les préjugés autour des métiers.
C'est super ça, ça tombe bien. Mais dis-moi Omar, pour toi, tout le monde peut faire le métier qu'il veut ?
Bien sûr, pourquoi on n'aurait pas le droit ?
Car il y a beaucoup de préjugés. Pour certaines personnes, il faut certains critères pour exercer certains métiers.
Par exemple ?
Les métiers scientifiques sont réputés pour n'être réservés qu'aux hommes. Ou encore, pire, les métiers qui demandent de la résistance physique.
Bah c'est n'importe quoi, non ?
Évidemment, les filles réussissent vraiment bien dans les métiers scientifiques quand elles osent se lancer. Les muscles, elles peuvent les avoir dans le cerveau.
Donc une femme peut faire mécanicienne, ingénieure ou développeuse informatique ?
Oui, bien sûr, et les écoles d'informatique sont ravies d'accueillir des femmes qui n'ont aucun interdit.
Et tu crois qu'il existe des préjugés sur les hommes aussi ? Certains métiers seraient interdits aux hommes ?
Sage-femme, tout est dit, c'est un métier réservé aux femmes, on ne dit pas sage-homme.
N'importe quoi, les hommes ont le droit d'exercer ce métier. On dit qu'ils sont mailloticiens. En ce moment, il y a même un film qui s'appelle « Sage homme » au cinéma. C'est vraiment des préjugés dépassés, ça.
Ah d'accord, donc si on résume, chaque personne peut choisir de faire le métier qu'elle veut, quel que soit son genre.
Voilà, c'est chouette, non ? Peu importe les préjugés, seul compte l'envie et la motivation.
C'est une très bonne nouvelle.
Merci pour toutes ces informations. Au revoir, Antoine.
Au revoir, Omar.
Merci beaucoup Omar et Antoine de m'avoir aidé à comprendre une chose. L'essentiel, c'est de faire le métier de son rêve. Écoutons maintenant Camille Roll, la directrice d'Altec, le centre de culture scientifique de l'Ain, va nous prouver que les métiers scientifiques sont aussi ouverts aux femmes.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Camille Roll, donc je suis la directrice d'Altec.
C'est quoi Altec ?
Alors Altec, c'est une association. C'est ce qu'on appelle un centre de culture scientifique, technique et industrielle. L'objectif d'Altec, c'est de vulgariser les sciences, diffuser les connaissances scientifiques et permettre à tous de pouvoir faire de la science au quotidien. Donc on fait notamment des animations avec les enfants, mais aussi avec les adultes. On fait des événements, des conférences, et c'est nous également qui coordonnons la fête de la science dans le département de l'Ain.
Vous avez un projet, l'Éditathon, femme de science et ingénieure de l'Ain, pouvez-vous le présenter ?
Alors l'Éditathon, en fait, c'est un marathon de l'édition sur Wikipédia. Tout le monde connaît l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Et en fait, ça part d'un constat que les femmes sont largement sous-représentées sur cette encyclopédie. On estime que seulement 19% des biographies sur Wikipédia sont des biographies de femmes. Et l'objectif, en fait, c'est de faire un marathon où on invite les gens à créer, en fait, les pages Wikipédia de personnalités qui ne sont pas encore représentées sur cette encyclopédie. Et donc, en l'occurrence, nous, on va travailler sur les femmes scientifiques et ingénieures originaires ou qui travaillent dans le département de l'Ain, puisqu'il y en a très peu qui sont représentées sur Wikipédia. Et l'objectif, c'est aussi de montrer à tous, et notamment aux jeunes, et en particulier aux jeunes filles, qu'on peut faire des sciences en étant une femme.
Pouvez-vous me dire un exemple de femmes scientifiques dans l'Ain ?
Alors, on en a plusieurs. On en a des très connues, très connues en tout cas, qui sont largement reconnues, comme Anne-Marie Lagrange, qui est une astrophysicienne, qui est originaire et qui habite dans l'Ain. Et nous, par exemple, dans l'Éditathon, on va présenter deux femmes scientifiques. Laurence Bérard, qui est une chercheuse dans l'anthropologie de l'alimentation. Et Emmanuelle Perdry, qui dirige une entreprise de la plasturgie qui s'appelle Rovip et qui se situe à Césaria.
Pourquoi Altec organise ce type d'événement ?
C'est encore une fois de montrer que tout le monde peut faire de la science. Alors là, on parle en particulier des femmes. C'est important que les femmes s'orientent vers les carrières scientifiques parce que c'est ça aussi qui permet d'apporter un regard nouveau sur la recherche. Je vais vous en donner un très parlant. Si on prend par exemple l'étude des hommes préhistoriques, on a tous ce stéréotype de genre qui voudrait que la femme préhistorique soit une petite chose fragile qui restait dans la caverne pendant que monsieur allait chasser le mammouth. Et ben, c'est grâce à des scientifiques femmes qu'on sait aujourd'hui que notamment les femmes préhistoriques chassaient comme les hommes, faisaient de la peinture comme les hommes et étaient tout aussi fortes que les hommes. Voilà. Et ça, c'est parce que des femmes scientifiques se sont intéressées à ces sujets-là.
Selon le réseau social soutenu par la ville de Grenoble Éco-Sciences, les filles font moins d'études scientifiques. Qu'en pensez-vous ?
Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais en effet, je pense que c'est une réalité. Alors, on sait d'après les études que les filles sont en général plus fortes que les garçons jusqu'au collège à peu près dans les matières scientifiques. Et après, malheureusement, les filles se détournent largement de ces carrières-là. Donc ça montre bien qu'il faut qu'on travaille tous sur ces stéréotypes de genre et montrer que les sciences, c'est aussi pour les filles.
Vous avez animé une chronique sur Radio B dans les pas des géantes. De quoi parliez-vous ?
Alors, dans les pas des géantes, l'idée, c'était vraiment de valoriser en fait toutes ces femmes scientifiques qui ont eu un impact sur la recherche, sur les découvertes, mais aussi plus largement de revenir un petit peu sur le statut de la femme dans les recherches scientifiques. Et puis, on a par exemple parlé de l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, c'est un effet sociologique qui entraîne en fait une invisibilisation des femmes. Soit elles sont complètement rendues invisibles dans les découvertes scientifiques, soit on leur vole carrément leurs découvertes scientifiques. Donc ça, c'est un phénomène qu'il est important de connaître. Et voilà, c'était dans les exemples des thèmes qu'on a abordés dans cette chronique radio.
Dans les pas des géantes. Elles ont marqué l'histoire des sciences, parfois sans qu'on le sache, souvent sans que l'on s'en souvienne. Dans les pas des géantes, dresse chaque quatrième mardi du mois sur Radio B le portrait de ces femmes de science remarquables et pourtant méconnues. Laissez-vous inspirer avec Altec, le centre de culture scientifique de l'Ain.
Qu'avez-vous découvert en faisant cette chronique ?
Eh ben, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, il y a plein de femmes scientifiques extrêmement importantes qui ont contribué à la recherche scientifique. Il n'y a qu'à prendre le domaine de la médecine. Pareil, on avait fait une chronique là-dessus. Il y a énormément de femmes qui ont contribué à des recherches scientifiques très importantes en médecine, en astronomie. Et pourtant, aujourd'hui, je pense que si on pose la question dans un micro-trottoir de nous citer une femme scientifique, au mieux, les gens savent citer Marie Curie. Au pire, les gens ne connaissent absolument aucune femme scientifique.
Avez-vous des ateliers pour les jeunes, pour les encourager à faire des études scientifiques ?
Alors, on fait des animations pour les jeunes à partir de 4 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc ça, c'est vraiment des activités prévues pour les jeunes. Et puis après, pour les plus grands et même à partir de 14 ans, vous pouvez venir sur nos différents événements. L'idée, c'est de vous faire découvrir la science de manière amusante, rigolote. Au mois de mai, on va parler de la colonisation de Mars, puisque ça, c'est un des prochains projets de la NASA d'aller habiter sur la planète Mars. Donc on va faire pareil un événement pour vous faire découvrir tout ça.
Merci Camille Rôle d'avoir répondu à nos questions.
Merci à Camille Rôle, directrice d'Altec, le centre de culture de scientifique de l'Ain, d'avoir accepté notre invitation. On vient de l'entendre. Tout le monde peut faire un métier scientifique. Je pense la même chose pour le sport. Et vous, quel est votre avis ? On retrouve Camille et Mohamed pour un nouveau micro-trottoir.
Pensez-vous que certains sports sont réservés uniquement aux hommes et aux femmes ?
Non, je pense que tout le monde peut pratiquer le sport que l'on veut. Après, on n'est pas obligé d'avoir envie de faire un sport, mais on devrait avoir le choix de faire le sport qu'on a envie.
Alors, je ne suis pas très sportive, mais je ne pense pas non plus.
Non plus, absolument pas.
Mais après, il y a toujours des réalités économiques qui font que les sports féminins sont toujours moins mis en valeur que les sports masculins.
Non, je ne pense pas.
Non, parce qu'il y a tout dedans. Dans tous les sports, il y a des femmes. Enfin, la boxe, tout ça, il y a sport de combat, j'en ai fait, lutte. J'ai lutté contre des femmes aussi. Ouais.
Merci aux personnes qui ont répondu. Pour moi, le sport est fait pour tout le monde, peu importe la discipline. les femmes peuvent jouer au foot et les hommes faire de la gymnastique. Avec Lucas, nous vous proposons de tester vos connaissances. Bonjour Lucas.
Bonjour Jules.
Aujourd'hui, tu vas certainement apprendre des informations sur le sport et les préjugés autour des femmes et des hommes.
Allez, je t'écoute.
Vrai ou faux, en football, les joueuses féminines de l'Olympique Lyonnais ont gagné plus de trophées nationaux que l'équipe masculine.
Ça m'étonnerait.
Et si, 24 trophées pour les femmes et 13 pour les hommes.
Je les ai vraiment sous-estimés.
Vrai ou faux, le joueur de tennis Novan Djokovic a remporté plus de fois le tournoi Roland-Garros à Paris que Serena Williams.
Faux, Serena Williams en a gagné 3 contre 2 pour Novak Djokovic.
Vrai ou faux, 5% des licenciés de la pétanque sont des femmes.
Faux, 16% des licenciés sont des femmes, selon la Fédération française de pétanque et des jeux provençaux.
Vrai ou faux, la majorité des cavaliers sont des hommes.
Faux, il y a une majorité des cavalières, l'équitation est même le premier sport féminin en France sur la saison 2020-2021, selon une étude de l'Observatoire économique et social du cheval.
Vrai ou faux, la danse est le sport le plus stéréotypé.
Vrai, selon une étude publiée sur Cairn.info, ce site diffuse les publications de sciences humaines francophones. L'étude a donc montré que la danse et la gymnastique sont considérées comme des sports pour les filles.
Il existe encore beaucoup de stéréotypes dans le sport. Pour moi, aucun sport n'est réservé soit aux filles ou aux garçons.
Tu as raison, je suis vraiment d'accord avec toi.
Merci et au revoir Lucas.
Au revoir Jules.
Écoutons maintenant Hüsnü Erdoğan, le président du club Les Boxeurs Virgins. Et oui, la boxe, ce n'est pas que pour les garçons, mais bien pour les hommes et les femmes. Mais il y a encore des préjugés.
Bonjour Hüsnü, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, Hüsnü Erdoğan. Voilà, je suis président du club Les Boxeurs Virgins, directeur sportif de ce club. Je suis président du comité départemental de l'Ain de boxe, membre du comité régional de boxe. Voilà.
La boxe est-elle un sport plus pour les garçons ou pour les filles et pourquoi ?
Je dirais que de plus en plus de filles et de femmes s'y intéressent. Pour donner un ordre d'idée et vous donner un ordre d'idée, sur un cours d'ado ou sur 100 personnes, il y a pratiquement 70 filles sur un cours.
Qui sont les plus forts physiquement entre les filles et les garçons ?
Mentalement, c'est les filles. Physiquement, c'est les garçons. Mais ça veut rien dire, on a beaucoup de filles qui redressent, j'ai envie de dire, les petits garçons qui se prennent pour des cow-boys, quoi.
Avez-vous déjà entraîné des filles ? Si oui, y avait-il des filles meilleures que certains garçons ?
Bah, j'entraîne beaucoup de filles. Après, sur le haut niveau, je parlais plus pour le haut niveau parce qu'on a une petite qui a fait ses 3-4 dernières années, qui a fait les championnats de France régulièrement, qui a fait les stages en équipe de France. Oui, on l'accompagne depuis 10 ans maintenant. Elle est encore à la salle. Elle s'appelle Nadia. Voilà, elle est très connue dans la région, même en France. Voilà, c'est une compétitrice de haut niveau. Voilà, elle est très, très, très voilà, à fond boxe, quoi. Elle est aussi dans les études. Voilà, mais c'est carré.
Hüsnü Erdoğan, vous êtes le président du club Les Boxeurs Burgiens. Vous avez près de 400 licenciés. Alors, plus d'hommes ou de femmes ?
500 aujourd'hui, alors on parle, mais 43-44% de féminines. On est pratiquement à 50-50, quoi.
Qui a le plus de chances de devenir boxeur ou boxeuse professionnelle entre les filles et les garçons ?
Bah, je dirais les filles, moi personnellement. Une fille, une femme, en fait, elle sait ce qu'elle veut, alors qu'un garçon, il sait ce qu'il veut beaucoup plus tard dans la vie. Ça veut tout et rien dire. Après, voilà, il y a des garçons qui sont très très carrés, qui savent ce qu'ils veulent d'entrer. Mais voilà, nous, on est plus, les masculins, on est beaucoup plus je m'en foutisme jusqu'à un certain âge. Et après, on se reprend en main quand on a une fille derrière nous qui nous tire les oreilles.
Le salaire d'un boxeur ou d'une boxeuse professionnelle est le même ?
Bah, en fait, on ne parle pas forcément de salaire, mais c'est vrai que en boxe, c'est un peu plus compliqué de mesurer les salaires. C'est comme un peu au foot, hein, quand vous regardez les salaires des joueurs de foot. Il n'y a pas forcément d'échelle, voilà, dans le monde professionnel. En sachant que quand on devient professionnel, sur ses premiers combats, si on a été médaille olympique comme Tony Yoka, on peut faire un combat à 400 000 euros sans les droits télévision. Mais quand on arrive et qu'on n'a pas de médaille olympique, on fera un premier combat à 300 euros, quoi. Ça peut être tout comme rien, quoi. Je connais des boxeurs qui ont fait leur premier combat professionnel gratuitement pour pouvoir se faire un nom. Puis derrière, une fois qu'on se fait un nom, on est demandé, puis on peut négocier nos primes de match.
Donc il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons pour être payés ?
Si, il y en aura toujours, malheureusement. Là, je peux vous prendre l'exemple des championnats du monde. Voilà, jusqu'à là, il n'y a jamais eu de prime pour les dames, pour les filles, sur toutes les catégories. Le champion touchait 100 000 euros en ayant gagné le titre. Il a touché deux fois 100 000 euros sur deux années différentes. Et cette année, ils ont passé la prime des garçons à 200 000 euros. Et pour la première fois de l'histoire, la prime des filles est de 100 000 euros cette année.
Qu'est-ce que vous en pensez de la place des femmes dans les Jeux Olympiques ?
Bah, je dirais, je ne comprends pas qu'on a attendu 2012 pour mettre les filles sur le tapis, alors que les femmes, elles ont toujours été là, surtout dans l'histoire de la France. Après, c'est vrai qu'en peu de temps, il y a eu une grosse révolution, même sur les catés, ils ont diminué les catégories des garçons pour augmenter les catégories des filles, mais ça se fera, ils n'auront pas le choix.
Est-ce qu'une fille et un garçon peuvent se rencontrer sur un ring ?
Officiellement, non. Après, à l'entraînement, comme on manque sur le haut niveau, ça manque de professionnels. Chez les féminines, officiellement, en salle, elles mettent les gants avec les garçons, souvent, pour préparer les échéances à venir. Mais après, officiellement, sur les combats, c'est strictement interdit en France.
Est-ce que dès la création de votre club, vous avez proposé des cours aux hommes et aux femmes ?
Ah oui, tout à fait, pour se faire une image, surtout. Et puis surtout pour avoir une parité, j'ai envie de dire, hommes et femmes. On a toujours fait en sorte que les filles aient leur place, en sachant qu'aujourd'hui, on encadre deux cours spécifiques féminins. Il n'y a que des filles. Voilà, que des filles, que des dames, et il n'y a pas de garçons. Voilà.
Qu'est-ce que ça a changé quand Estelle Mosley a gagné sa médaille d'or ?
Bah, ça a changé un peu le monde féminin. Il y a beaucoup de dames et beaucoup de filles qui se sont dit Estelle Mosley est boxeuse, elle était championne olympique, et pourquoi pas moi ? Alors ça a ouvert des portes à certaines qui avaient toujours en elles l'envie de pratiquer un sport de combat. Ça les a aidées, on va dire. Et bien sûr, ça nous a fait une part des licenciés qui sont lancés là-dedans.
Merci beaucoup, Usnu, et au revoir.
Merci à Usnu Erdogan, président du club Les Boxeurs Burgiens, d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, Mohamed et Jularon vont vous présenter des livres autour de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Bonjour, je m'appelle Mohamed et je suis accompagné de Jularon.
Bonjour Mohamed.
Jularon, connais-tu des livres ou des films sur l'égalité entre les hommes et les femmes ?
Oui, La fille d'avril de Annelise Heurtier.
Il parle de quoi ce roman ?
Ça se passe dans les années 60. Une fille rêve de courir mais son père lui interdit. Pour lui, les sports ne sont que pour les hommes. Il lui dit, si tu cours trop longtemps, des poils vont te pousser partout, sur le corps et même de la barbe. À cette époque, une femme qui court, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Elle ne portait pas de basket et n'avait pas de tenue adaptée. Pour son père, une femme doit être féminine et ne doit porter qu'une robe ou une jupe.
C'est surprenant qu'un père dise ça à sa fille.
C'était normal dans les années 60. Les filles étaient obligées de rester à la maison pour s'occuper des enfants.
Mais alors la fille, elle a réussi à courir ou pas ?
Pour le savoir, va acheter le livre ou emprunte-le au CDI. Je rappelle son nom, La fille d'avril de Annelise Heurtier aux éditions Casterman.
Moi aussi, je lis une BD sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle s'appelle Égaux sans égaux et c'est une bande dessinée réalisée par Égalité par Éducation. Cette association combat les stéréotypes. Ils ont choisi de faire une BD pour sensibiliser grâce aux paroles et aux images et pour que les jeunes enfants regardent au moins les images. Dans cette BD, il y a plusieurs histoires. Il y a par exemple un passage sur les vêtements. Les hommes disent à une femme que sa jupe est trop courte et qu'elle prend des risques. Et si elle monte ses cuisses, elle ne se respecte pas. Cette histoire se termine en montrant des garçons avec une jupe. Ils la portent par solidarité.
Ça me donne envie de la lire.
On vous propose aussi un film sur ce sujet. De l'autre côté du lit de Danny Boone, un film qui traite le sujet avec beaucoup d'humour. Tu verras, c'est très drôle.
Je le regarderai avec plaisir et je te donnerai mon avis. Merci pour tous ces conseils.
De rien et au revoir.
Avec plaisir, au revoir.
Merci Mohamed et Jularon. C'est la fin de notre émission autour de l'égalité entre les femmes et les hommes, et en particulier sur les préjugés.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
On espère que vous avez appris des choses et que ça vous donnera envie d'agir pour défendre l'égalité entre les femmes et les hommes.
Merci à Audrey et Inès de Radio B. Merci à Mesdames Cola et Jérôme du Collège Yves Moranda de Saint-Denis-les-Bourgs. Merci aux personnes qui ont répondu à nos questions. Merci à Camirol Daltek et Usnu Erdogan des Boxeurs Burgiens. Et merci à Jimmy à la Technique. Réécoutez cette émission sur radio-b.fr dans la rubrique Les Ateliers de Radio B.
Je vous ai préparé une petite mixture avec cheveux de l'autre à l'intérieur. Vous allez boire cette mixture et vous allez switcher, vous allez changer de corps. Vous allez vous réveiller demain dans le corps de l'autre. C'est une expérience exceptionnelle. Ce n'est pas la première fois.
coucher, dis-le-moi, dis-le-moi. Sur ma vie, je vais rentrer pour des années.
Je sais qu'elle me fait du mal, mais je l'aime. Malgré tout, je suis à bout.
Je te jure que je vais lui faire du sale, même si tu l'aimes. Rien à foutre, il est où?
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Anya, je suis en compagnie de Nathan. Bienvenue dans cette émission préparée par les élèves de 4e du collège Yvon Moranda à Saint-Denis-les-Bourgs.
Aujourd'hui, nous allons vous parler des violences conjugales.
Nous trouvons ça important de vous en parler car c'est un sujet qui nous concerne tous.
Nous allons maintenant vous faire écouter le micro-trottoir de Anya et Maïssa. Elles sont allées vous poser des questions dans les rues de Saint-Denis-les-Bourgs et aux adultes de notre collège.
Pour vous, c'est quoi une violence conjugale ?
Elle peut être physique, elle peut être morale. Autant des coups que des paroles. Les violences conjugales. Et c'est honteux.
Frapper sa femme, la rabaisser et l'humilier.
Pour moi, une violence conjugale, c'est une violence qui s'exerce au sein du foyer, qu'elle soit sur les conjoints ou les conjointes ou sur les enfants.
De mettre pression sur quelqu'un par des paroles, ou ça peut être physique, ou ça peut aller jusqu'au viol.
C'est dès qu'on ne respecte pas quelqu'un dans un couple. Dès qu'il y en a un, ça peut être, généralement c'est plutôt l'homme et ça peut être aussi la femme qui n'a aucun respect pour son conjoint.
D'après vous, ce sont les hommes ou les femmes qui sont le plus touchés par ces violences ?
Selon moi, ce sont plus les femmes qui sont touchées. On entend beaucoup parler des féminicides, donc des femmes qui sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.
Les deux.
Les deux ?
Les deux.
D'accord. Et selon vous ?
Les hommes, on n'en parle pas beaucoup. Mais il y en a, donc c'est les deux.
À mon avis, les femmes, mais je pense qu'il y a aussi quelques hommes.
Je pense que les femmes sont plus touchées, mais je pense que l'inverse existe aussi. Mais je pense, oui, c'est quand même les femmes. On entend plus parler de femmes qui meurent sous des coups du conjoint.
Selon vous, c'est pourquoi ?
Est-ce que c'est quelque chose qui date de plusieurs années, du fait que l'homme soit supérieur à la femme, et donc il y aurait des hommes qui ont des fragilités et qui ne supportent pas que la femme ait certaines libertés.
Le tempérament des gens ?
Pas exactement, que les hommes et les femmes soient égaux déjà, suivre les gens qui font des choses comme ça, les suivre, les éduquer.
Physiquement, c'est dur de se défendre face à un homme.
La vie est difficile, les gens travaillent souvent beaucoup.
On continue à être dans une société qui est dominée par les hommes, même s'il y a une égalité des femmes. De plus en plus, ou une demande d'égalité, je pense qu'on n'y est pas encore.
Sans explication rationnelle pour moi, peut-être une violence naturelle chez une personne.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, à mon avis, sur les réseaux, qui dénigrent la place des femmes dans nos sociétés.
À votre avis, quelles mesures doivent être prises pour arrêter les violences ?
Bah déjà, si tout le monde avertissait la police, et au lieu de faire sa propre loi, ça serait déjà pas mal.
Moi, je pense que par le dialogue, on solutionne beaucoup de choses. Mais bon, il faut savoir dialoguer.
C'est aussi dans l'éducation, il faudrait qu'il y ait, au niveau de l'école, qu'on explique qu'on doit respecter, on doit tous se respecter les uns les autres, aussi bien l'homme que la femme.
Ah bah déjà en tenir compte, déjà pour commencer, accepter une bonne fois pour toutes le fait qu'elles existent. Et puis que lorsque les personnes victimes vont porter plainte, qu'on les écoute jusqu'au bout, qu'on ne leur dise pas que ce n'est pas grave, qu'on ne leur dise pas que ça va passer, qu'on ne leur dise pas que c'est normal, puisque je suis même sûre qu'elles peuvent entendre ça, et qu'il y ait réellement des recours de fait, c'est-à-dire que les gens qui peuvent être violents envers leur conjoint doivent être punis, doivent être peut-être emprisonnés, je ne sais pas, ce n'est pas forcément à moi d'en décider, mais en tout cas, il faut faire quelque chose, il faut arrêter de le taire, il faut en parler déjà au moins pour commencer. Ce que vous faites est ce qui est très bien.
Merci à nos reporters, aux habitants de Saint-Denis-les-Bourgs et aux adultes de notre collège d'avoir répondu à nos questions.
Comme ce sujet peut être flou pour certains, Elia et Kara ont interviewé une bénévole de Nous Toutes 01. Ce collectif organise des actions pour alerter sur les violences conjugales.
Combien votre association comporte-t-elle de bénévoles ?
Alors, on ne peut pas vraiment parler de bénévoles en tant que telles, mais on parlera plus de militantes ou militants.
au sein de nous toutes, puisque c'est un collectif féministe à la base. Donc nous, on s'est créé en association ici dans l'Ain, pour des raisons qui sont plus pratiques, mais de base, c'est un collectif. Donc n'importe qui peut se proclamer militant ou militante nous toutes. Ensuite, évidemment, on a des bénévoles récurrents. Là, on est 6 actuellement, 6 membres actives au sein de nous toutes. Mais derrière, quand on lance une action, n'importe qui peut venir nous aider à organiser, peut participer à cette action. Voilà, si on compte en tout depuis le départ, depuis la création de l'association, on n'est pas loin de 300 personnes qui ont pu nous aider sur différentes actions. C'est jamais les mêmes, mais ou alors il y en a qui font toutes les actions. Voilà, mais du coup, on ne peut pas vraiment parler de vrais bénévoles. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans l'association ?
Eh bien déjà, bon, je suis déjà féministe de naissance, hein, comme on dit. Donc du coup, j'ai déjà conscience de toutes ces choses-là, de toutes les violences que subissent les femmes depuis toujours. Et puis, évidemment, quand on se rend compte en grandissant que en fait, ces violences sont omniprésentes et sont toujours là, malgré quand même que ça évolue un petit peu, on ne va pas voir le verre à moitié vide et plutôt à moitié plein, mais ça donne envie quand même de... Le message principal, d'être vigilant, regarder autour de nous, écouter les autres, ne pas remettre en question la parole de la victime. Voilà, la bienveillance, être bienveillant les uns envers les autres, prendre conscience des choses.
Comment nous les jeunes, on peut jouer un rôle pour sensibiliser les personnes aux violences conjugales ?
Eh bien, vous peut-être vous engager... dès maintenant, dans le militantisme contre les violences, ça peut être déjà une bonne chose, parce que c'est grâce aux générations actuelles, aux personnes de votre âge, de vos âges, aux ados, que plus tard la société peut évoluer. Voilà, c'est vous qui allez rentrer dans la vie d'adulte, et du coup c'est à vous de... Enfin, vous pouvez faire changer les choses.
Merci de vos réponses et au revoir. Nos camarades vous ont préparé un vrai ou faux pour vous donner des précisions.
Bonjour, je m'appelle Anaïe et je suis accompagnée de Léane.
Bonjour.
Comment vas-tu Léane ?
Très bien et toi ?
Très bien. Alors nous allons faire un vrai ou faux sur les violences conjugales.
Ok, je commence. Vrai ou faux ? Il y a plus de femmes que d'hommes victimes de violences conjugales. Vrai. D'après le ministère de l'Intérieur, les femmes sont les premières concernées. 102 femmes contre 23 hommes sont décédées de violences conjugales en 2020.
À mon tour, vrai ou faux ? En France, plus d'une femme sur deux ont déjà été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle dans leur vie. Vrai. Selon le collectif Nous Toutes, plus d'une femme sur deux ont déjà été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans leur vie, en 2017. Les signalements pour violences conjugales ont augmenté de 60% durant le second confinement.
C'est mon tour, vrai ou faux ? Moins de 100 femmes sont mortes de violences conjugales en 2022. Faux, il y a 122 femmes décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2022, d'après le ministère de l'Intérieur.
Vrai ou faux ? On parle de violence seulement lorsqu'il y a des coups ou des traces. Faux, d'après nous toutes, la loi française punit toutes les violences. Elle peut être psychologique, sexuelle, physique, mais pas que.
Pour finir, vrai ou faux, la peine pour le viol d'un mineur de plus de 15 ans est la même pour le viol d'un mineur de moins de 15 ans. Faux. D'après service-public.fr, le site officiel de l'administration française, un viol sur mineur de moins de 15 ans est puni de 20 ans de prison. Et pour un viol de mineur de plus de 15 ans, c'est 15 ans de prison. Donc il y a 5 ans de différence. La peine peut aussi être plus importante dans certains cas, si une arme est utilisée ou si c'est une personne de la famille. Et d'après l'Assemblée nationale, si la personne décède à la suite du viol, c'est alors 30 ans de prison. Nous sommes arrivés à la fin de ce vrai ou faux.
Merci de nous avoir écoutés et d'avoir participé. Au revoir.
Au revoir.
Merci à Anna et Léane pour ce vrai ou faux.
Nathan et Julie vous ont préparé une chronique sur les conséquences des violences conjugales.
Bonjour Julie.
Bonjour Nathan.
Aujourd'hui, nous allons vous parler des violences conjugales. Connais-tu les conséquences des violences conjugales ?
Oui, la violence a de nombreuses conséquences physiques, bleus et saignements.
Penses-tu que les violences sont aussi psychologiques ?
Oui, car les victimes ressentent de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, et elles peuvent aussi perdre confiance en elles. Certains font aussi des crises de panique à cause de ces violences.
Et pour l'agresseur, quelles vont être les conséquences de ces actes ?
L'auteur d'une agression sexuelle risque une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Qui sont les victimes des violences conjugales ?
Selon le site Arrêtons les violences, plus de 200 000 femmes âgées de 18 à 75 ans ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles au cours d'une année. L'auteur de ces violences est le mari, le concubin, le pacsé, le petit ami, ancien ou actuel, cohabitant ou non.
Combien de féminicides ont lieu par an pour cause de violences conjugales ?
D'après Actu.fr, 147 féminicides ont eu lieu en 2022.
Merci d'avoir répondu à mes questions et au revoir.
Au revoir.
On l'a entendu. Le collectif Nous Toutes 01 organise des actions pour alerter sur les violences conjugales. Le réseau Vive 01 pour violences intrafamiliales rassemble 3 associations. Elles viennent en aide aux victimes de ces violences. Marion Doyen, présidente de l'association Save, et Jacques Demar, du Secours Populaire de l'Ain, ont répondu à nos questions. Bonjour, pour commencer, pouvez-vous vous présenter ?
Oui, ben Jacques Demar, c'est le réseau VIF 01, c'est-à-dire c'est 3 associations qui se sont rassemblées pour être plus fortes, pour travailler sur les violences dans le département de l'Ain. Donc les 3 associations sont Secours Populaire Français, Fédération Secours Populaire Français de l'Ain, Save 01 et Putain de Guerrière 01.
Bonjour, moi c'est Marion Doyen, du coup la présidente de l'association Save.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager au Save ?
Alors c'est l'association Save, du coup c'est l'association qui s'appelle Stop aux violences et Entraide. Du coup c'est une association qui accompagne les personnes victimes de violences sur tout le département de l'Ain. Donc moi je suis éducatrice spécialisée à la base, j'ai une licence en droit et en psychologie, donc j'ai travaillé auprès de la protection de l'enfance. J'ai pu voir toute la violence qu'il y avait dans les domiciles. Et j'ai des amis qui ont été victimes de violences conjugales, donc c'est pour ça que ça m'a poussée à créer cette association.
Et à vous occuper en particulier des femmes victimes de violences conjugales ?
On s'occupe des deux du coup, on s'occupe des femmes, des hommes et des enfants.
Comment vous aidez concrètement les femmes victimes de violences conjugales ?
On a un accompagnement global des personnes, de la protection jusqu'à la reconstruction. Donc c'est-à-dire que les personnes aient porté plainte ou non, jusqu'à plusieurs années quand elles en auront plus besoin. Et on s'occupe de tout ce qui est besoin juridique, psychologique, sociaux et médicaux. Donc on accompagne les personnes à porter plainte. On les accompagne au sein des audiences. On fait de l'accompagnement physique aussi. On les aide à aller au médecin. On leur donne des coordonnées de professionnels. On fait beaucoup de soutien. On les aide à la reconstruction.
Quelles sont les personnes qui en bénéficient, leur tranche d'âge et si elles sont en famille ?
Alors il y a toutes personnes qui peuvent en bénéficier, du bébé jusqu'à l'âge que vous voulez. On s'occupe vraiment de toute personne.
Combien de femmes bénéficient de votre association environ tous les mois ?
On accompagne actuellement plus de 150 personnes. Tous les mois, c'est difficile à vous dire. On accompagne en ce moment 150 victimes.
Selon vous, quelles mesures seraient nécessaires pour protéger les victimes de violences conjugales ?
Croire un peu plus en la parole des victimes. Parce que c'est bien, mais pour 2 ou 3 personnes, alors 2% au niveau des enfants, peut-être un peu plus de personnes qui... Ça arrive, qui vont mentir. On a 95 à 98% qui disent la vérité. Il ne faudra peut-être pas les oublier, celle-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on met plus l'accent sur les 2 ou 3 personnes qui vont mentir. Ça arrive, voilà. On oublie justement de croire à la parole des femmes. Alors moi, je reviendrai sur une loi qui est très bien. Enfin, je veux dire, la présomption d'innocence, c'est bien. Il faudra peut-être le définir autrement. Parce que les procédures durent 2, 3, 4 ans. Pendant ce temps-là, quoi, la victime, elle est présumée menteuse. Enfin, comment ça se passe? Et elle n'est surtout pas accompagnée. Donc oui, alors la première des choses, c'est croire à la parole de la femme et tout de suite mettre les mesures adéquates. C'est-à-dire qu'on a souvent des jugements qui sont « Madame, vous n'avez pas le droit de vous approcher d'eux, sans bracelet, sans rien ». Évidemment, ça a plutôt tendance à générer plus de violence de la part de l'auteur qui risque à ce moment-là de passer à l'acte, sans contrôle, sans rien. Donc vraiment là, la justice ne fait pas son travail sur ce point-là. Il faudrait vraiment qu'on croit plus la femme et qu'on mette tout de suite des moyens pour protéger la femme ou l'homme, parce que c'est pas bien. Mais là, on parle de 80, la victime, voilà, qui tout de suite mettre les moyens pour éviter qu'elle soit en danger.
Il faudrait déjà en fait que les lois soient appliquées correctement.
Est-ce que vous prenez aussi en charge les enfants ?
On met en place des ateliers pour les enfants, du coup, des ateliers thérapeutiques avec des groupes de parole, de la sophrologie, du yoga, de la médiation par le cheval.
Pourquoi vous croyez plus la victime que l'auteur ?
Alors déjà, nous, on s'occupe essentiellement des victimes et on travaille sur des dossiers. D'autres acteurs sont là pour ça. Parlez-en pour que ça ne reste pas impuni.
Comment les gens peuvent-ils aider vos associations à accompagner les femmes ?
Quel type de personne qui pourrait nous aider ? Une personne lambda qui voudrait aider l'association ?
Parlez de nous.
Parlez
de
nous déjà.
Après nous rejoindre si elles veulent. Et puis surtout parlez de nous. dire quand ils ont un cas, les orienter vers justement ce type d'association. Quoi.
Merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci
à vous. Merci,
merci beaucoup à vous.
Merci à Marion Dorian, présidente de l'association SAVE, et Jacques Demar, du Secours Populaire de l'Ain, d'avoir accepté notre invitation. Lucie et Safa vont maintenant vous parler du livre Acquitté.
Bonjour, je m'appelle Lucie et je suis avec Safa.
Bonjour à tous.
Nous allons vous présenter le livre Acquitté d'Alexandra Lange aux éditions J'ai lu.
De quoi parle-t-il ?
Une femme vit avec un mari violent. Elle raconte son quotidien de femme battue.
Quel genre de violence subit-elle ?
Toutes sortes de violences morales et physiques.
Que se passe-t-il ?
Un soir, en 2012, son mari rentre saoul et énervé et il l'étrangle. Elle finit par le tuer.
Elle est arrêtée ?
Oui, elle passe ensuite un procès pendant 3 jours à la cour d'assises de Douai, dans le Nord, en 2012.
Gagne-t-elle le procès ?
Oui, car beaucoup de personnes ont témoigné en sa faveur.
Est-ce une histoire inspirée de faits réels ?
Oui, elle écrit son autobiographie dans ce livre.
Qu'as-tu pensé de ce livre ?
Ce livre m'a beaucoup touchée. En plus, c'est une histoire vraie, donc on prend plus conscience de la gravité. C'est inacceptable que plein de femmes vivent ça. Ça me rend triste quand je pense qu'elle n'a pas été prise au sérieux dès le début. Et toi, qu'en as-tu pensé ?
J'ai aussi trouvé ça très grave qu'elle soit si peu prise au sérieux et que dans cette histoire, notamment, peu de gens se rendent compte de la gravité de la situation et surtout qu'elle doit passer à un tel acte pour arrêter ses souffrances.
C'est la fin de cette chronique. Merci de l'avoir écoutée. Au revoir.
Au revoir.
Merci les filles.
Avant de terminer cette émission, Sarah et Elia vous ont préparé une conclusion pour savoir comment agir ou lutter contre les violences conjugales.
Bonjour Elia.
Bonjour Sarah.
Je me suis renseignée sur les violences conjugales.
Tu as appris quoi ?
Tu connais le numéro d'urgence si tu es victime de violences à la maison ?
Le 18 ?
Non, c'est les pompiers ça. Si tu es victime de violences conjugales, c'est le 17.
C'est quoi le 17 ?
Le 17, c'est le numéro de police et de la gendarmerie. On peut les appeler pour un accident de la route, si un voisin fait trop de bruit, ou si par exemple on est témoin de violences sur une femme. Des personnes répondent 24 heures sur 24 et tous les jours. Ce numéro est totalement gratuit. Il ne faut pas hésiter à les appeler.
Ah, je ne savais pas. Et que se passe-t-il ensuite ?
Tu peux porter plainte dans un commissariat de police.
Une fois que j'ai déposé plainte, que se passe-t-il ?
Les gendarmes ou les policiers vont enquêter pendant au minimum 2 mois. La justice ne peut rien faire pendant cette période.
C'est quoi une enquête ?
Les gendarmes ou les policiers auditionnent les personnes concernées par l'infraction, victimes, auteurs et témoins.
Et si je n'ai pas de nouvelles plus de 2 mois après ma plainte ?
Il faut contacter le tribunal. Il pourra, si c'est possible, donner des nouvelles sur l'évolution du dossier.
Il existe des associations pour aider les victimes de violences conjugales ?
Oui, il existe plusieurs structures existent dans l'Ain. Il y a le Réseau Vif, violence intrafamiliale. Il regroupe 3 associations engagées pour aider les victimes. Et à Bourg-en-Bresse, il y a l'AVEMA, l'association d'aide aux victimes de l'Ain.
Elle est située où ?
Rue de la Bibliothèque, juste à côté de Carré-Amio, là où il y a le conservatoire.
Et si je veux les contacter, je fais comment ?
Il y a leur téléphone, le 04 74 32 27 12. Tu seras orienté vers les professionnels compétents.
Et si je suis convoqué par le tribunal ?
Tu peux te constituer partie civile, c'est-à-dire tu estimes avoir été ou être victime d'une infraction. Tu peux prendre un avocat et même aller au tribunal pour découvrir les lieux. L'AVEMA peut aussi accompagner pour différentes démarches. Ils ont un bureau d'aide aux victimes.
Et si je veux voir un psychologue ?
L'AVEMA propose aussi un suivi pendant plusieurs mois pour aider et soutenir les victimes. Elia, un petit résumé de ce que tu viens d'apprendre.
Les violences conjugales sont punies par la loi. La victime peut être un homme ou une femme. Les violences peuvent être physiques, psychologiques ou sexuelles. La majorité des violences sont commises par le conjoint ou ex-conjoint. Si vous êtes victime, des associations existent pour vous aider, vous accompagner et vous protéger.
Tu as tout compris, Elia.
Merci pour tes explications, Sarah.
Au revoir.
Merci, Sarah et Elia.
C'est la fin de notre émission sur les violences conjugales.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
On espère que vous avez appris des choses et que vous avez pris conscience que tout le monde est concerné par les violences conjugales et que nous pouvons tous agir pour les éviter.
Merci à Audrey et Inès de Radio B. Merci à mesdames Cola et Jérôme du collège Yvon Moranda de Saint-Denis-les-Bourgs. Merci aux personnes et aux adultes de notre collège d'avoir répondu à nos questions. Merci à Justine Thomas de nos Toutes 01 et à Marion Douanien et Jacques Demar du Réseau Vif 01. Merci à Jimmy à la technique.
À la réalisation de cette émission.
Anya,
Nathan,
Safa,
Lucie,
Sarah,
Elia,
Kiara,
Anaï,
Léane,
Julie,
Maïssa.
Réécoutez cette émission sur radio-b.fr dans la rubrique Les ateliers et les ateliers de Radio B.
Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Je te connais, j'avais peur de t'en parler.
coucher, dis-le-moi, dis-le-moi. Sur ma vie, je vais rentrer pour des années.
Je sais qu'elle me fait du mal, mais je l'aime malgré tout. Je suis à bout.
Je te jure que je vais lui faire du sale, même si tu l'aimes. Rien à foutre, il est où?